Et tout de suite sur RFI, rendez-vous avec le journal d'Haïti et des Amériques. C'est avec Anne Verdaguet. Bonjour.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, un an jour pour jour après l'assassinat de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco, et de son chauffeur. On ira sur place au Brésil avec Sara Cozzolino, où ce double assassinat avait semé l'émoi et où elle est devenue une icône de la résistance des femmes et des minorités. On vous parlera des déboires de Boeing après l'accident de l'Ethiopian Airlines et de l'appareil 737 Max. Les États-Unis, comme de nombreux pays, ont décidé de clouer au sol tous ces appareils du même modèle. Et puis des nouvelles haïtiennes avec France Duval qui nous parlera du Premier ministre Henri Séan qui joue sa place après l'arrestation de 7 personnes lourdement armées à Port-au-Prince qui ont été libérées sans être jugées. Il y a donc un an, au Brésil, Marielle Franco, la conseillère municipale de Rio, était assassinée. Un assassinat politique en plein cœur de la capitale brésilienne qui a fait de cette militante de gauche engagée contre le racisme, l'homophobie et les violences policières un symbole dans le pays et à l'étranger. Après un an d'enquête, 2 suspects ont été arrêtés, 2 anciens policiers. Mais au-delà du travail de la justice, Marielle Franco est devenue une icône de la résistance au Brésil. Le reportage à Rio de Sara Cozzolino.
Des slogans, des drapeaux, des t-shirts et même des tatouages en hommage à Marielle Franco. Nous sommes le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes dans le centre de Rio. Noire, habitante de favela, Ana Maria Leoni a le même sourire fier que celui de Marielle, le même bandeau dans les cheveux. Après sa mort, la conseillère municipale est devenue un modèle pour beaucoup.
Le combat de Marielle nous a rendus plus fortes. Nous avons l'habitude de dire que Marielle a semé des graines en nous, et pas seulement ici. C'est dans tout le Brésil, dans le monde entier. Tout le monde a été très affecté par sa mort. Et nous allons maintenant continuer ce combat. On ne s'arrêtera jamais.
En l'espace de moins d'un an, Marielle Franco a été assassinée et Jair Bolsonaro, porteur d'un discours raciste, machiste et homophobe, a été élu président du Brésil. Et en même temps, jamais autant de femmes noires n'ont été élues à des fonctions politiques. Talíria Petroni est députée de Rio. Elle fait partie de celles qu'on appelle les héritières de Marielle Franco.
Le meurtre de Marielle a éveillé en nous un sentiment d'urgence. Je pense que la meilleure façon de garder vive sa mémoire, c'est en occupant tous les espaces possibles avec les combats qu'elle menait. C'est en combattant le génocide du peuple noir, en combattant la misogynie et le machisme qui tuent tant de femmes, la LGBT, les phobies, les inégalités sociales, toutes ces luttes que Marielle incarnait dans son corps et par sa voix, je crois que c'est notre manière de garder Marielle présente à nos côtés.
Un combat nécessaire pour celles et ceux qui, comme Talíria Petroni, étaient proches de la militante de gauche. Pour Monica Benicio, c'est même devenu une urgence vitale. La compagne de Marielle Franco, en couple avec elle depuis 13 ans, et de toutes les luttes politiques. Elle voyage partout en Europe et en Amérique latine, toujours avec son t-shirt « Qui a tué Marielle ?»
Aujourd'hui, être dans ce combat, transformer mon deuil en combat, c'est aussi une façon de continuer à être avec elle, de préserver sa mémoire et de rendre hommage à notre histoire, à tout ce qu'elle représente pour moi. La justice pour Marielle n'est pas rendue avec la fin de l'enquête ou avec la réponse concrète de qui a tué ma compagne, même si c'est quelque chose que j'attends. Réclamer justice pour Marielle, c'est se battre pour une société plus juste, pour que plus personne ne soit victime de cette barbarie comme Marielle et ne ressente plus la même douleur que j'éprouve.
Si Marielle Franco n'avait jamais reçu de menace de mort avant d'être assassinée, elle était une cible pour ce qu'elle représentait. Une femme noire, lesbienne, qui défend les droits des minorités dans des institutions masculines et conservatrices. Mais elle dérangeait aussi parce qu'elle critiquait le pouvoir policier, notamment le phénomène des milices, des groupes formés d'agents de sécurité qui font régner leurs lois dans les favelas, ou encore les UPP, les unités de police pacificatrices censées combattre la violence dans les favelas. Johanna Ferras est sociologue, elle a encadré le travail de Marielle Franco sur la violence des UPP.
Elle a fait une critique cinglante de la violence policière. Marielle avait une forte personnalité, elle savait ce qu'elle voulait. Elle n'a pas eu peur d'écrire ce qu'elle a écrit. Elle a eu beaucoup de courage, le courage de la vérité, comme disait Foucault.
2 jours avant l'anniversaire de la mort de Marielle Franco, 2 anciens policiers militaires ont été arrêtés, soupçonnés d'être impliqués dans son assassinat. Ce jeudi, de nombreuses manifestations sont prévues pour rendre hommage à la militante et poser la question qui subsiste. qui a ordonné le meurtre de Marielle Franco. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous avez rejoint pour la revue de presse des Amériques et on reste au Brésil où l'assassinat de Marielle Franco il y a tout juste un an fait la une des médias.
Oui exactement, on peut parler d'une véritable commémoration dans les médias. Anne, la chaîne O Globo sort un documentaire sur l'engagement politique de la conseillère municipale. Les journaux publient des dossiers spéciaux. Marielle Franco est devenue un symbole mondial, estime par exemple l'hebdomadaire Carta Capital, rappelant le retentissement international qu'a eu sa mort violente. À présent, il faut trouver les commanditaires de l'assassinat. C'est important pour sauver la démocratie brésilienne, écrit Carta Capital. L'hebdomadaire a déjà sa petite idée sur leur identité. Il s'agit sans doute des groupes criminels, des milices qui utilisent la violence physique pour imposer leurs intérêts politiques et économiques. Cette véritable mafia s'est bien implantée dans l'état de Rio de Janeiro et risque de se répandre dans le pays entier, selon Carta Capital.
Et alors que le Brésil commémore l'assassinat de Marielle Franco, une nouvelle tragédie s'est produite hier.
Une fusillade au collège de Suzane, dans la banlieue de Sao Paulo. Deux anciens élèves ont tué par balle 8 personnes avant de se donner la mort. Ça s'est passé hier, effectivement, hier mercredi matin. Et c'est également une des journaux. Au Globo s'interroge sur le culte des armes au Brésil et une certaine tendance à la barbarie que l'on peut observer dans le pays. Une chose est sûre, écrit le journal, ce massacre remet en question la politique du gouvernement visant à faciliter l'accès aux armes.
Et que sait-on sur les assaillants ?
Alors, Guilherme Tauqui et Luis Enrique de Castro étaient deux anciens élèves de ce collège. Ils avaient 17 et 26 ans. Leur motivation reste pour l'instant inconnue, d'après O Globo. Le site d'information R7, pour sa part, révèle que les deux hommes se connaissaient depuis l'enfance, adeptes de jeux vidéo. Ils fréquentaient aussi le Dark Web, vous savez, cette portion de la toile à laquelle on accède par un logiciel spécial, un réseau de l'ombre très fréquenté par les extrémistes de toutes sortes, où on peut acheter des armes, des drogues, entre autres. Et sur l'un de ces forums, les deux assaillants auraient, d'après le journal en ligne R7, demandé des conseils pour préparer la fusillade. Et aussi, ils auraient obtenu effectivement quelques conseils. D'après le site d'information G1, le procureur a ouvert une enquête pour terrorisme interne.
Une information concernant maintenant le Venezuela. Arim, l'Inde va arrêter d'importer du pétrole du Venezuela.
Oui, c'est ce qu'a déclaré le consortium indien Reliance Industries, qui possède la plus grande raffinerie au monde. Une décision qui, selon le site d'information La Patilla, a été prise sous la pression des sanctions internationales qui visent déjà le Venezuela et surtout sous la pression constante du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a demandé aux autorités indienne à plusieurs reprises de cesser d'acheter du pétrole vénézuélien. D'après la Patilla, l'Inde a aussi suspendu la vente de diluant à la compagnie de pétrole PDVSA, un produit indispensable pour faire circuler le pétrole dans les oléoducs, car la consistance du pétrole vénézuélien, est très très épaisse.
On va parler à présent de l'affaire Boeing, c'est comme ça qu'il convient de l'appeler. Après le deuxième accident mortel dimanche dernier d'un de ses appareils en Éthiopie, l'avionneur américain devra rendre des comptes. Les États-Unis ont finalement cédé à la pression et ont décidé de clouer au sol jusqu'à nouvel ordre leur Boeing 737 Max, deux crashs meurtriers en à peine 5 mois et de nouvelles données qui confirment des ressemblances entre les deux catastrophes ont fait plier la Maison Blanche. Éric De Salve à San Francisco.
Des images satellitaires collectées par le Canada confirment des similitudes entre la trajectoire du 737 Max d'Ethiopian et celle du 737 de Lion Air qui s'est écrasé en octobre en Indonésie. Juste après leur décollage, les deux Boeing ont chacun piqué du nez avant de reprendre de l'altitude et de s'écraser. Ces parallèles renforcent les soupçons des experts autour d'une possible défaillance du système de stabilisation automatique déjà en cause dans le crash de la Lion Air. C'est ce qui a poussé la FAA, l'Agence fédérale de l'aviation américaine, à finalement se résigner à interdire de vol ce modèle phare de la gamme Boeing. Le 737 Max, c'est un tiers des ventes du constructeur en 2018. Mais la sécurité des Américains et des passagers, explique Donald Trump, est notre priorité absolue. Depuis le crash de dimanche, les États-Unis étaient de plus en plus isolés. Toutes les agences aéronautiques du monde ont progressivement interdit de vol le 737 Max. Un peu tard, disent certains experts, car la presse américaine rapporte des témoignages inquiets de pilotes de 737 Max postés depuis des mois sur un forum anonyme. L'un d'eux déplore notamment un manuel de bord inadéquat et d'une insuffisance nuisance presque criminelle. Un autre explique que son avion s'est mis à piquer du nez de façon abrupte et sans explication une seconde après avoir activé le pilotage automatique. C'était en novembre, juste après le crash de la Lion Air. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
À Rimes, la décision américaine de clouer tous les appareils Boeing 737 Max au sol est saluée par la presse aujourd'hui.
Oui, la presse, exactement, Anne, la presse qui critique cependant l'attitude de la FAA, c'est le régulateur aérien américain, c'est lui qui aurait dû prendre cette décision de clouer les appareils au sol, estime le New York Times. Cet épisode aggrave, d'après le journal, la crise de confiance dont souffre déjà le régulateur auprès du public américain. Une crise qui a ses origines en 2005 lorsque la FAA a décidé de laisser aux constructeurs aériens le soin de vérifier la sécurité de leurs machines. Depuis 14 ans, ce sont donc les constructeurs comme Boeing qui se certifient donc eux-mêmes. Il est temps que cette pratique soit révisée par le Congrès, écrit le New York Times.
À lire dans le même journal à Rimes, une enquête pénale ouverte contre Facebook, une enquête autour des pratiques de partage de données.
Oui, il s'agit de données de ses utilisateurs qui auraient été partagées avec d'autres entreprises. La justice veut savoir si cela a été fait à l'insu des usagers ou pas. D'après le quotidien, un grand jury à New York a exigé d'au moins deux importants fabricants de smartphones qu'ils fournissent leurs informations à ce sujet. Des centaines de millions d'utilisateurs sont concernés, écrit le journal. Comme l'explique le New York Times, Facebook a partagé de nombreuses données personnelles avec des fabricants de smartphones, mais aussi des entreprises comme Amazon ou Microsoft. Ces deux dernières années, Facebook a toutefois mis fin à la plupart de ses partenariats, écrit le New York Times.
Merci à Rim Lipol pour cette revue de presse des Amériques. Et j'ajoute, dans l'actualité des Amériques, la candidature aujourd'hui du démocrate Beto O'Rourke à l'investiture pour l'élection présidentielle de 2020. On vous en parlait dans le journal. À 14h, étoile montante de l'opposition à Donald Trump, cet ancien élu du Texas à la Chambre des représentants de 46 ans avait fait une campagne très remarquée en novembre dernier face au poids lourd républicain Ted Cruz. Avant lui, 14 candidats se sont déjà lancés dans la primaire démocrate, donc rien n'est encore fait. Affaire à suivre.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Les nouvelles haïtiennes à présent avec Franz Duval du Nouvelliste. Le premier ministre haïtien Jean-Henri Séan joue son poste après la libération de 7 étrangers lourdement armés.
C'est par un message posté mercredi soir sur Twitter que les haïtiens ont été informés que la séance d'interpellation du premier ministre est fixée au mercredi 20 mars 2019 au Sénat de la République. Le tweet est signé Karl Murat Cantave, président du Sénat haïtien. La veille, le mardi 12 mars, lors d'une séance portant sur l'arrestation et la libération des 7 étrangers lourdement armés sur le territoire haïtien, puis transférés et libérés aux États-Unis, 9 sénateurs avaient décidé d'interpeller le premier ministre Jean-Henri Séan, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur pour les porter à faire la lumière sur cette affaire, l'arrestation puis la libération des mercenaires lourdement armés, une affaire qui suscite beaucoup de questions. La séance d'interpellation du premier ministre peut déboucher sur son renvoi en cas de vote de non-confiance des sénateurs.
Franz, à quelle issue peut-on s'attendre après cette séance d'interpellation au Sénat?
En Haïti, la séance d'interpellation est toujours très délicate. Rares sont les chefs de gouvernement qui en sortent vainqueurs. La séance, souvent, ne se déroule même pas sur les sujets ayant provoqué l'interpellation. Les parlementaires haïtiens s'en servent soit comme un piège pour renverser un premier ministre, soit comme un moyen pour le renforcer, pour le mettre à l'abri du président ou d'une autre branche du pouvoir législatif. Le premier ministre qui reçoit un vote de non-confiance part. Celui qui reçoit la confiance de l'une des deux chambres reste en poste pour 6 mois sans qu'il ne soit possible de l'interpeller à nouveau avant la fin de ce délai. Ce 20 mars, Jean-Henri Séan sera au terme de ses 6 premiers mois au pouvoir. Il devra compter ses alliés ou s'en offrir de nouveau pour rester en poste.
Dans le reste de l'actualité haïtienne, le dossier Petro-Caribé a franchi une nouvelle étape ce mercredi.
Le dossier Petro-Caribé, cette affaire qui court sur 10 ans et qui concerne la gestion présumée défaillante de plus de 1,5 milliard d'euros sous différents gouvernements en Haïti, a franchi ce mercredi une nouvelle étape. Le commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, a annoncé, après analyse de la plainte déposée par l'État haïtien, le rapport de la Cour supérieure des comptes, les documents du BMPAD, les rapports des commissions sénatoriales et les plaintes relatives au dossier Petro-Caribé, avoir acheminé un réquisitoire définitif au cabinet d'instruction. Par ce réquisitoire, le cabinet d'instruction est de nouveau saisi du dossier Petro-Caribé et peut instruire afin d'émettre une ordonnance dans le délai de 3 mois que fixe la loi.
Mais d'autres réformes pourraient être réclamées, France.
Passant au crible le rapport de la Cour des comptes, qui est l'élément le plus solide du dossier Petro-Caribé, Maître Claudie Marsan, experte en passation de marché public, estime nécessaire que la population exige des magistrats de la Cour des comptes qu'ils jugent les comptes. Plaidant pour un travail responsable des pouvoirs publics en ce qui a trait à la gestion des ressources publiques, l'experte affirme que la Cour des comptes peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics des réformes d'ordre législatif ou administratif conformes à l'intérêt général. Maître Claudie Marsan a présenté le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé comme étant un rapport politique. Selon elle, ce rapport manque de rigidité, ne donne pas assez d'éléments capables de contribuer à la tenue d'un procès. Affirmant que la justice a été saisie de manière irrégulière, Maître Marsan invite la Cour des comptes et le Parlement haïtien à produire des arrêts afin de faciliter le travail de la justice.
Merci Franz Duval, notre partenaire du Nouvelliste. L'actualité ultramarine à présent avec le journal La Première Carrée, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, après plusieurs années de négociations, la Guadeloupe intègre aujourd'hui l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale.
Plus connu sous son acronyme anglais OECS, Organization of East Caribbean States, ça doit être ça que ça veut dire, que la Guadeloupe va bien sûr intégrer comme membre associé, n'étant pas elle-même un État. La cérémonie officielle de signature se déroulera cet après-midi à Saint-Claude. C'est le président du Conseil régional de la Guadeloupe, Harry Chalus, qui va signer. La Guadeloupe devenant ainsi le 11e membre de l'organisation et le 4e membre associé. La Martinique l'est déjà, elle, depuis 2015. Josiane Champion.
Cette intégration va permettre de renforcer les actions de coopération avec nos voisins de la Caraïbe et en particulier avec les îles adhérentes à cette organisation créée en 1981, à savoir Montserrat, Antigues et Barbudes, Saint-Kitts et Nevis, Anguilles, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et les îles Vierges britanniques. La région Guadeloupe a ciblé 8 domaines de coopération inscrits dans le contrat d'adhésion qui va être signé cet après-midi, des secteurs soutenus par ailleurs par le programme de coopération territoriale européen Interreg Caraïbes, piloté par la collectivité régionale. Alors dans ces secteurs prioritaires, il y a les transports avec l'ambition d'améliorer la desserte aérienne et maritime, souvent très compliquée, on le sait, entre nos îles. La santé aussi, avec par exemple la mise à disposition d'un outil comme le TEPSCAN. Les détracteurs, il faut le dire, de cette adhésion de la Guadeloupe à l'OECO regrettent tout de même que le volet économique ne soit pas suffisamment présent.
En Martinique maintenant, un tout autre sujet, avec ses 70 lauréats qui ont reçu hier à la cyberbase du François leur passeport Internet multimédia. Et parmi ces 70 personnes, la moitié exactement, 35, sont des seniors, comme on dit aujourd'hui, désormais davantage autonomes face à la mystérieuse machine. Écoutez par exemple Lucienne, elle a 75 ans et elle est très fière de son passeport troisième niveau. Elle est au micro de Ronan Bonnec.
Ça certifie que je peux aller sur l'ordinateur, je peux faire des recherches, je peux aller pour mes impôts, pour ma mutuelle et tout ça là, et bien d'autres choses. C'est important parce que maintenant, quand on va dans des administrations, on nous demande de ceci, cela, d'aller chercher, d'aller faire des recherches parce qu'ils n'ont pas le temps, alors on est obligé de le faire.
Vous vous sentez à l'aise maintenant sur Internet?
Assez bien, assez bien. Au début, c'était un petit peu difficile, mais là, ça va, je suis un petit peu plus à l'aise. Et aussi, on peut retourner à chaque fois refaire la même chose à la maison. Et ça se passe bien. Je vous dis que je suis fier de moi maintenant. Mes petits-enfants sont fiers de mamie. Je suis là-dedans, je parle avec mes enfants, je discute de tout. Et je suis enchanté.
Une mamie connectée?
Ah oui, très connectée. Ah ouais, du jour comme de nuit, je regarde tout là-dedans. Ah ouais, c'est super bien, je n'ai rien à craindre. Seulement, il faut faire attention quand même. Il faut savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Comme partout ailleurs. C'est la vie.
Oui, oui, il faut faire attention. Bon après-midi, Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand. On se retrouve non pas demain, mais lundi. Demain, ce sera Maïwenn Bordron qui sera avec vous pour la tranche Haïti et Amérique. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Très bonne fin de journée à tous.